Alors, Parshat Tetzavé, c'est donc la deuxième paracha qui s'occupe du Mishkan. Deux parshiot, là, dont on y a discussion pour savoir si elles sont à la bonne place ou s'il faut les imaginer après le Vaudor, selon qu'on pense que le Mishkan est une réponse au Vaudor, ou bien que c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu de toute éternité, enfin, qui a été prévu de toute éternité. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que si on dit, comme le Rambam, qu'en réalité le Mishkan, il a été donné parce que en faisant le Vaudor, les Bnei Israël ont montré qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus concret. Si vous voulez, cette émouna dans un dieu complètement abstrait, qu'on ne voit pas et tout, ça leur était trop difficile. Et donc, une espèce de concession. Et donc, on va leur permettre de faire quelque chose dans la même direction que ce que font les autres peuples, sauf que on va le canaliser, on va le limiter énormément, et que ça ne s'adresse pas à une idole, évidemment. Mais évidemment qu'il y a un risque. Il y a un risque que finalement on en vienne à idolâtrer le Mishkan. On va appeler cet endroit-là un endroit qui aurait une kedusha par lui-même, en quelque sorte. Or, Akadosh Baruch Hu est partout, et donc, mais on ne peut pas dire qu'il y a des endroits particulièrement kedushim, c'est juste qu'il y a des endroits où on a une conduite particulière à avoir, qui donc nous sépare. La séparation, c'est l'idée de base de la Kedusha. Kadosh, ça veut dire séparé. Donc, là, ça a à voir avec l'idolâtrie, si vous voulez. C'est une réponse. Pour éviter une idolâtrie, on va faire une concession. Et alors, si on fait le bilan global, ce Mishkan, il a fini par évoluer. Il est devenu Bet HaMikdash. Et le Bet HaMikdash, ça a été un échec. Qu'il a été détruit. Il a été détruit deux fois. Donc c'est comme si on disait que ben finalement les Bnei Israël n'ont pas su gérer ce qu'on leur a donné pour éviter l'idolâtrie, parce que le Beth Amikdash finalement il est détruit pour le premier. On parle du premier pour trois raisons, mais la raison essentielle c'est évidemment toujours le problème de l'idolâtrie qui est fondamental. Si maintenant on considère qu'il faut lire le texte dans l'ordre dans lequel il est donné, c'est-à-dire que le Mishkan a été donné sans référence au Vaudor, puisque la paracha du Vaudor, c'est ce qu'on va lire la semaine prochaine seulement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde les choses, on a l'impression que le Mishkan, en tout cas, s'il n'a pas donné lieu à, mais en tout cas, il n'a pas empêché le Vaudor. Bon. Donc, de toute manière, il y a quelque chose de difficile dans le Mishkan. Quoi qu'on en dise, il y a un problème, quoi, en quelque sorte. Alors, on peut se dire que le Vaudor, bon, j'anticipe sur ce qu'on dira la semaine prochaine, mais le Vaudor, si on vous demande qu'est-ce que vous pouvez dire du Vaudor, quelle est la cause du Vaudor, si on peut parler comme ça, a priori, la cause évidente, c'est l'absence de Moshe. Les Bnei Israël, quand Moshe ne revient pas au moment où ils croyaient, eux, les Bnei Israël, qu'il aurait dû revenir, ils ont été impatients, et ils sont un peu trompés sur le calcul du temps d'absence de Moshe Rabbeinu, mais ce qui est caractéristique, c'est que la démarche, ça a été de dire, on a dit à Aaron, fais-nous quelque chose, parce que Aïch Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qui est devenu de lui, et on a absolument besoin de le remplacer. On a besoin de remplacer Moshe. Donc on voit très bien que le veau d'or, d'une certaine manière, il est la conséquence d'une absence de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, cette absence de Moshe Rabbeinu, elle se marque dans le texte lui-même du Mishkan, puisque dans la parasha de cette semaine, le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Alors on explique que la raison pour laquelle le nom ne figure pas, c'est parce que Moshe Rabbeinu lui-même avait dit à Hachem, mais alors ça c'est une explication qui est basée sur le fait que le veau d'or a eu lieu avant, mais avant le Mishkan. Alors on va dire que avant cette paracha, si vous voulez, en tant que telle, parce que quand les Bnei ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais reconstruire un nouveau peuple avec toi. Donc Moshe Rabbeinu a refusé et il a dit à... Alors bon, il a refusé, il a commencé à travailler, il a obtenu le pardon du veau d'or. D'après le Gaon de Vilna, c'était seulement un sursis qu'il a obtenu. Sursis qui va tomber avec le problème avec l'épisode des Meraglim, des explorateurs. Mais Hachem, à ce moment-là, a dit à Moshe, il lui a dit, ok, je pardonne et je vais vous envoyer un malach. Je vais vous envoyer, quelque chose qui va vous guider, quelque chose qui va faire de vous, d'une certaine manière, un peuple comme les autres. Tous les peuples ont un Dieu, si vous voulez, qui les guide. Cette divinité étant, pas vraiment une divinité, mais étant soumise à Elohim. Et donc, Hachem a dit à Moshe, je pardonne et voilà ce que je vais faire. Et là, vous savez bien que Moshe Rabbeinu a dit, non, il n'en est pas question. Si tu ne pardonnes pas complètement, au sens où tu ne nous envoies pas un malach, tu nous redonnes cette ligne directe qu'on avait avec toi, sans en passer par un quelconque intermédiaire, alors tu peux m'effacer de ton livre. Je ne suis pas d'accord, tu peux m'effacer de ton livre. Alors, bien sûr, Moshe a dit, si tu ne pardonnes pas complètement, donc tu peux m'effacer. Donc il a dit les choses avec une condition. Si tu ne pardonnes pas, alors efface-moi. Mais ici, Hachem a pardonné, donc Moshe n'a pas demandé dans ce cas-là. Mais il y a une règle, quand un tzaddik parle, même, et parle sous condition, même si la condition n'est pas remplie, la parole du tzaddik est tellement forte qu'elle va s'appliquer quand même. Et donc c'est ça. Et donc au lieu d'être effacé complètement, évidemment, tout le Sefer Torah, mais d'une paracha, dans le paracha Tetzaveh, Moshe Rabbeinu est effacé. Il n'y a pas son nom. Et alors, on voit donc, dans le Mishkan, si vous voulez, dans la paracha qui parle du Mishkan, des vêtements, des Kohanim, etc., il y a dans le texte lui-même l'absence de Moshe Rabbeinu, qui, concrètement, cette absence de Moshe Rabbeinu, elle va être le prétexte pour faire le veau d'or. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait déjà une espèce de verre qui était dans le fruit, ici. Dans la paracha elle-même, l'absence de Moshe Rabbeinu est inscrite, si vous voulez, et c'est cette absence-là qui va déboucher sur le veau d'or. Alors, on ne peut pas dire que c'est je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais en tout cas, c'est frappant.
C'est comme si la parole de
Moshe Rabbeinu
était rétroactive.
Oui, bon, ça c'est peut-être le Midrash en question qui explique que pourquoi c'est effacé ici. C'est pas dans le temps. Donc, de toute manière, si, ou bien on pense que cette paracha-là, elle n'est pas à sa place, donc elle n'est pas obligatoirement rétroactive, mais bon, ça marche seulement là, si on pense que le Mishkan est une réponse au Vaudor. C'est ce que je vous l'ai décrite. Il y a d'autres explications quant à l'absence de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. Alors, on a cette paracha de Tetzaveh. Alors, il y a à la fois l'absence de Moshe Rabbeinu, mais contrairement à toutes les autres parchiotes, il y a ici une formulation qui n'existe pas ailleurs. D'accord ? C'est le texte porte Ve'ata Tetzaveh. Puis ensuite, c'est marqué Ve'ata Hakrevelecha au pasuk, au premier pasuk du chapitre prochain. Du prochain chapitre Kafret, donc sur la même page pour. Ça veut dire quoi? Ata Tetzaveh. Toi, tu vas ordonner. Bon, c'est donner à Moshe Rabbeinu une autorité énorme. Jusqu'à là, c'était toujours marqué Ve'asita ou bien Ve'tzivita, tu ordonneras, mais là, on entendait toujours que Moshe Rabbeinu n'était que le répétiteur, en quelque sorte, des ordres d'Hachem. Mais ici, on présente les choses comme Ata Tetzaveh, comme c'est toi qui vas ordonner. C'est donner à Moshe un statut à part. Donc c'est un peu paradoxal que dans cette paracha où son nom ne figure pas, au contraire, on lui donne un pouvoir qui est plus grand que partout ailleurs. Dire que c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne, vous souvenez, ça fait référence, ça nous rappelle en tout cas un autre endroit où effectivement Moshe Rabbeinu apparaît comme celui qui ordonne, c'est dans le Sefer Dvarim. D'accord. Il y aura ce fameux pasouk qui est Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. La Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné, tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov, c'est un héritage de la communauté de Yaakov. Mais là, on dit que la Torah, c'est Moshe qui l'a ordonné. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que le Metzaveh, quand vous faites la bracha sur une mitzvah, quand vous faites Adlakat Hanerot de Shabbat, vous dites Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kilshanu Mitzvotav Vetzivanu. C'est Hashem qui a été Metzavé. Toutes les mitzvot, c'est les mitzvot d'Hashem. Comment est-ce qu'on peut dire dans ce texte que c'est Moshe, d'accord, Torah Tziva Lanu Moshe? La Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Mais c'est un scandale. Alors, je vous ai déjà raconté plusieurs fois que c'est une question que bon, tout le monde a probablement. Et quand j'avais posé cette question à mon maître, Zichron Ibracha, mon maître, un de ses noms c'était Moshe, et il m'a dit que ses enfants, il faut que j'ajoute la chose suivante. La Gemara, elle dit que la première chose qu'on doit enseigner à un enfant dès qu'il commence à parler, c'est ce verset-là. Torah tziva lanu Moshe. Et le Rambam me possède, et la Gemara, elle est très très sévère, elle dit que si on n'enseigne pas ça à un enfant, c'est qu'il ou kovro. C'est comme si on l'avait enterré. C'est énorme. Alors, il faut entendre, bien entendu, les choses au sens où qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a enterré? On ne dit pas qu'on l'a tué, mais ça veut dire qu'il va avoir énormément de peine à se développer voilà, qui se sortent de la couche de terre sous laquelle ils se trouvent. D'accord ? Si on n'enseigne pas cette chose-là, c'est un principe absolument fondamental. Alors on peut se demander en quoi est-ce si fondamental ? Justement, quand mon maître m'a dit que quand il a enseigné ça à ses enfants, les enfants, vous savez, les enfants, ils appliquent la halakha. La halakha est qu'un enfant, il n'a pas le droit d'appeler son père par son nom. Et donc, les enfants, ils ne savaient pas comment dire Torah Tzivalanu Moshe. Alors, ils disaient Torah Tzivalanu Papa. Et j'ai pensé que c'est en fait une réponse. La réponse, c'est ça. La réponse à la question comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ? Eh bien, on peut dire une chose pareille parce que c'est le seul moyen de dire les choses à un enfant. Si vous le dites d'emblée à un enfant que c'est Hachem qui nous a donné la Torah, ce qui est la vérité, mais l'enfant, il va se faire une représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui Hachem ? Alors, dans la tête de l'enfant, ça sera un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Et là, du coup, il faut des années pour s'en sortir, pour enlever cette image. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui, en vérité, ils continuent à l'âge adulte, même s'ils ne se l'avouent pas, mais ne le disent pas, mais concrètement, c'est bien, ils le traitent comme un vieux monsieur. Ils traitent Hachem comme un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, qui effectivement a beaucoup de sagesse et qui donne des conseils, etc. Mais c'est ça. Alors que si on lui dit la Torah, pour toi, la Torah, elle t'est ordonnée par ton père. Et quand il va grandir, il va apprendre que son propre père, c'est son grand-père qui l'a enseigné à son père. Et de fil en aiguille, on va pouvoir remonter jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir dire cette chose abstraite, en quelque sorte, c'est Hachem qui l'a donné. Cette montée-là. Donc c'est le seul moyen de ne pas se tromper, de ne pas induire des représentations chez l'enfant, dont il est ensuite bien difficile de se détacher. Alors ici, on veut dire, Ata Tetzavé, si on va dans le même sens, c'est comme si, ici, si c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne, et bien entendu, mon cher Abbé nous l'ordonne, mais c'est Hachem qui lui a dit d'ordonner en quelque sorte. Mais, si on applique le même raisonnement, pourquoi est-ce qu'il faudrait justement à cet endroit-là que les choses soient dites par Moshe ? Comme si, à cet endroit-là, il était important que les choses ne soient pas dites directement par Hachem, mais que ça passe par Moshe Rabbeinu. Et donc, juste garder ça en tête, on va voir si, dans ce qu'on va voir dans le texte, si on peut effectivement utiliser cette construction qu'on a faite pour Torah Tzivalanu Moshe, ici aussi dans ce contexte. Chose de plus profond. L'autre explication, c'est que cette paracha de Tetzavé, elle est quasiment toujours lue dans une semaine dans laquelle il y a l'anniversaire de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né et il est niftar Zayin Adar, le 7 Adar, et dans cette paracha, elle est lue dans une semaine dans laquelle il y a en général, c'est l'anniversaire de la naissance et de la disparition de Moshe. Bien. Alors, avec tout ça, il y a effectivement une première question qui est posée pratiquement par tout le monde sur ces deux premiers versets. C'est quoi ? Le premier verset, il dit, ordonne aux Bnei Israël qu'ils prennent et qu'il l'amène à toi, de l'huile d'olive pure. Pure, ça veut dire ici, zar, ça veut dire sans scorie. C'est une pureté chimique. Ce n'est pas un problème de pureté rituelle, mais c'est un problème de pureté chimique. Alors bien sûr, il faudra par ailleurs qu'elle ne soit pas impurifiée, mais le texte ici il parle de zar. Zar, ça veut dire pureté, la pureté chimique. En fait. Katit la maor, donc qui est une huile pressée pour maor, c'est-à-dire pour la menorah. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait trois sortes d'huile. Il y avait l'huile pour la menorah, il y avait l'huile pour les menachot, pour les crêpes qu'on faisait, d'accord, avec de la farine et de l'huile, en gros. Et il y avait une troisième huile qui était l'huile d'onction. C'est l'huile avec laquelle, au moment de l'inauguration du Mishkan, on a oint tous les kelim, tous les ustensiles. Et c'est aussi une huile avec laquelle on va oindre les rois d'Israël. Donc, trois, et celle-là, c'est la maor. Ça, c'est la plus pure, ça veut dire au sens où, ici, on ne prend que les premières gouttes de la pression à froid de l'olive. Ça, c'est la haalot ner tamid. Donc, pour faire monter le ner en permanence, c'est-à-dire, on parle ici de la lumière de la menorah. Et ensuite, on dit, be'oel moed, michutz la parochet, asher al haedut, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. C'est-à-dire, dans le Mishkan, dans le Ohel Moed, donc, de l'autre côté du rideau, d'accord, il y a un rideau qui partage le Kodesh. Elle le sépare du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a Haedut, ça veut dire il y a le témoignage, c'est-à-dire on considère que le Aaron, l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y a les tables de la loi qu'on a reçues, dans laquelle il y a les brisures des premières tables, et il y a encore aussi un Sefer Torah, tout ça c'était dans le Aaron. Et donc, Aaron est un témoignage, en quelque sorte. Donc, Yaroch oto Aaron. De l'autre côté, donc, Aaron, il alignera, en quelque sorte, mettra en ligne, c'est-à-dire, il allumera les sept lumières de la menorah, lui et ses fils. Et ça, on allumera ça le soir. Et ça devra durer jusqu'au matin. Ce sera l'Ifne Hachem, ce sera devant Hachem, et c'est une règle éternelle pour toutes les générations, pour les Bnei Israël. Donc ici, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui n'a strictement rien à faire ici. Parce que ces deux phrases-là, elles parlent du fonctionnement du Mishkan. Or, dans Trouma et Tetzavé, on ne parle jamais du fonctionnement. On parle de la construction, de la fabrication. Alors pourquoi est-ce que tout à coup ici, au milieu de nulle part, en plein milieu de la construction du Mishkan, on se met à parler du fonctionnement? Donc c'est un peu étrange. Ça ne devrait pas être là, en quelque sorte. Alors, on va expliquer, d'une certaine manière, que il s'agit ici d'expliquer le fonctionnement pour qu'on comprenne vraiment comment il faut construire la menorah. Comment et où il faut la placer, etc. Alors, on nous le dit en termes de fonctionnement, mais cette explication du fonctionnement, c'est la clé de l'endroit où on va placer la menorah, dans un endroit tout à fait particulier, de l'autre côté du rideau, donc, et la façon dont ça doit être aligné, etc., et qu'il faudra à tout moment qu'on allume cette menorah, qui doit toujours brûler. Ça va s'appeler un air tamid. D'accord ? Tamid, ça veut dire, ça ne brûlera pas tout le temps, mais tous les jours. Tamid, ça ne voudra pas dire tout le temps, mais tous les jours. Puis là-bas aussi, on a un din, le deuxième, c'est aussi Ve'ata akrevelecha, rapproche de toi, et Aaron achicha, Aaron ton frère, Ve'et bana vito, et ses fils avec lui. Tu les rapprocheras au sens que tu les feras sortir du klal Israël, de l'ensemble des Israël, lecha anoli, pour qu'ils me servent. Alors, et la liste, voilà la liste des Kohanim. Il n'y avait pas plus de Kohanim que ça. Il y avait Aaron et ses fils, c'est-à-dire les quatre fils, Nadab, Abihu, Elazar et Itamar. Ce sont les seuls Kohanim qui ont été désignés par Hachem comme Kohanim. Par la suite, il va y avoir un ajout, ça va être Pinchas. Puis ensuite, les enfants de Nadab, Abihu, etc., les enfants qui seront nés après la désignation de leurs parents, de Nadab et Abihu, ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils ne se sont pas mariés, mais Elazar et Itamar, d'ailleurs on voit Pinchas ben Elazar, mais ça c'est pas comme ça. Donc les enfants qu'ils auront eus après avoir été désignés comme Kohanim, ces enfants-là vont être Kohanim. Mais s'ils avaient eu des enfants avant d'être désignés, c'était le cas de Elazar qui avait son fils Pinchas. Quand Elazar a été désigné, Pinchas existait déjà. Et donc Pinchas, qui était la deuxième génération, il n'a pas été, n'est pas devenu Cohen. Il va le devenir à titre personnel, ça c'est un truc absolument exceptionnel. Mais donc, c'est seulement ceux qui sont nés après la désignation qui seront Cohanim. Mais au départ, donc, on part avec 5 Cohanim. Ça n'a rien à voir avec la Tunisie, hein, mais il y en avait 5. Enfin, tu dis que ça n'a rien à voir, je ne sais pas, peut-être. Donc là aussi, c'est Moshe Rabbeinu qui va désigner, en quelque sorte, les Kohanim. Il va les approcher. Donc, on donne un énorme pouvoir à... D'accord ? Moshe Rabbeinu devient le Metsavé, sur ce point-là. Et il est aussi l'autorité... qui est au-dessus de Aaron et ses frères et ses fils, c'est-à-dire au-dessus de celui qui va être Cohen Gadol. C'est un des endroits où on voit que, comme Moshe est au-dessus, ça veut dire que Moshe était roi. C'est la royauté qui est au-dessus de la Kehuna. Alors ça veut dire, comme vous vous souvenez, Moshe aurait dû être Cohen Gadol. Il ne l'a pas été parce que quand Hachem lui a ordonné d'aller délivrer les Bnei Israël de l'exil égyptien, de l'esclavage égyptien, Moshe Rabbeinu avait refusé initialement parce qu'il ne voulait pas aller marcher sur les plates-bandes de son frère. Mais finalement, il a cédé. Mais d'avoir refusé au départ, ça lui a coûté la Kehuna. Hachem a dit, ah, tu ne veux pas ? Ça sera ton frère qui sera Cohen Gadol et toi tu seras seulement Lévi. Puis il est né Lévi, tu vas rester Lévi, mais ton frère il va devenir Cohen, et Cohen Gadol même. Mais et il y a eu un moment quand on a fait l'inauguration du Mishkan, on n'a pas encore parlé de ça, mais quand le Mishkan aura été construit, on l'a inauguré, on a fait une Chanukat à Mishkan. Et à ce moment-là, pendant, il y a eu une semaine de fonctionnement, de fête en quelque sorte, qui s'appelle Milouim. Et pendant ce temps-là, c'est Moshe Rabbeinu qui était Kohen Gadol, et qui a fonctionné comme Kohen Gadol pendant une semaine. Et le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a pensé, quand Hachem lui a dit que c'est lui qui fonctionnait, il a pensé que Hachem avait pardonné et que finalement il allait être Kohen Gadol. Mais Hachem lui a dit ici, non, c'est pas toi qui seras Kohen Gadol, c'est ton frère. Mais curieusement, ça veut dire, ton frère va devenir Kohen Gadol, mais c'est toi qui, mais tu resteras néanmoins au-dessus de lui. D'accord? Il est le plus grand des Kohanim, il est Kohen, toi tu ne l'es pas, mais tu es plus grand que lui parce que tu es, en fait, tu es roi. Mais c'est lui qui, là ici, c'est, donc, on voit ici Moshe Rabbeinu comme le Metzavé, celui qui ordonne, en partie, quel ustensile ou quel mobilier, sur quel mobilier est-ce que Moshe va parler? Il parle sur la menorah. D'accord? C'est lui qui donne l'ordre sur la menorah. Les autres objets, le shulchan, etc., tout le reste, les autels, Moshe a donné, il a répercuté les ordres d'Hachem. Ici, là, c'est lui qui ordonne. Donc son pouvoir est un pouvoir sur la menorah. Et puis c'est aussi un pouvoir sur la désignation du Kohen Gadol. Alors, si vous complétez la chose, la fonction, la mitzvah du Kohen Gadol, la mitzvah quotidienne du Kohen Gadol, il est un Kohen comme les autres, sauf que c'est lui qui allume la menorah tous les jours. Lui et son descendant, le Kohen Gadol, qui allume la menorah tous les jours. Donc on voit que les deux sujets ici, où Moshe Rabbeinu est en position d'autorité, d'accord, la suprématie de Moshe Rabbeinu, elle se marque essentiellement par rapport à la Kehuna. Parce que c'est lui qui va désigner le Kohen, les Kohanim, et c'est lui qui va désigner, qui va donner les ordres concernant la menorah, c'est-à-dire l'allumage, et peut-être qu'on peut expliquer pourquoi on parle ici de l'allumage, parce que c'est, étant donné que l'allumage, c'est la mitzvah du Kohen Gadol, alors il était nécessaire de dire que sur cette mitzvah-là, aussi, Moshe Rabbeinu est dominant, en quelque sorte. C'est lui qui gouverne. Alors maintenant, pourquoi est-ce par rapport à la Kehuna que la suprématie de Moshe se marque tout particulièrement? Pourquoi est-ce que ce n'est pas par rapport au Shulchan, à la Parnassa, etc.? Parce que la menorah, ça représente la Torah, si vous voulez. Ça représente la Chochma d'Hachem. Et il va y avoir avec la menorah un es quotidien, un miracle quotidien, qui est que tous les soirs, l'allumage de la menorah, ça consiste à faire deux choses. Ça consiste à nettoyer les bougeoirs, si vous voulez, des restes d'hier, les mèches et éventuellement des choses brûlées, enfin, le nettoyer. Ça, c'est ça l'allumage, n'est-ce pas? C'est pas du tout. Il faut bien nettoyer pour pouvoir allumer. Non, ça fait partie de la mitzvah. Et ensuite, on remplit le récipient, les récipients, on les remplit d'huile d'olive, on y met des mèches et on allume les mèches. Et ça, c'était le travail d'Aaron tous les soirs. Alors, c'est marqué, mais Erevat Boker. C'est-à-dire, on allumait le soir et on mettait du combustible, donc de l'huile, de telle sorte que ça puisse brûler jusqu'au matin. D'accord? Alors, évidemment, on dit, mais les nuits ne sont pas toujours aussi longues. Donc on en mettait pour que ça puisse brûler au moment où les nuits sont les plus longues, jusqu'au matin. Et puis il y avait un miracle tous les jours, c'est que ce qu'on appelle le Ner Maharavi, celui qui était du côté de l'ouest, c'est celui qui est au centre de la menorah. Vous vous souvenez, la menorah, elle a 7 branches, donc il y en a une centrale et 3 de part et d'autre. Eh bien, cette lumière centrale, elle, bien qu'on ait mis la même quantité de combustible que dans tous les autres récipients, eh bien, celui du centre, il brûlait toute la journée d'après aussi, beaucoup plus longtemps que les autres, et la Gemara va dire que c'était un témoignage de la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash. C'est avec cela qu'il y avait ce témoignage permanent, quotidien, de la présence d'Hachem.
Mais il s'éteignait quand même?
Non, pas toujours. Des fois, il fallait l'éteindre le matin. Des fois, il fallait au moment où il voulait rallumer, enfin l'après-midi, il fallait l'éteindre parce qu'il brûlait encore. C'est pas tous les jours jusqu'à l'après-midi, mais il brûlait beaucoup plus que les autres, alors qu'il y avait la même quantité, donc c'était totalement miraculeux, quoi.
Parce que si c'est un témoignage, on ne voit pas que c'est un témoignage.
Pardon?
Puisque c'est un témoignage.
Alors?
On ne pense pas qu'il
s'éteigne. Pourquoi? Le témoignage, il était qu'il brûle plus longtemps. Pardon? Parce qu'il y a une mitzvah d'allumer chaque jour. Il y a un dîne de tamid. Ça doit brûler. Et tamid, ça veut dire qu'il faut chaque jour faire tout le travail. C'était nécessaire. Parce que la mitzvah, c'est d'allumer. La mitzvah n'est pas que ça brûle. La mitzvah, c'est d'allumer. On a le même problème de savoir si la mitzvah est que ça brûle ou la mitzvah est d'allumer avec Hanouka. La question à Hanouka, elle se pose. Si quelqu'un a allumé le nerf de Hanouka, il a commencé à brûler, puis ensuite il y a eu un coup de vent, et ça l'a éteint. Est-ce qu'on doit rallumer? Disons qu'il faille normalement que ça brûle au moins une demi-heure. D'accord? Ça n'a brûlé qu'un quart d'heure. Est-ce que je dois rallumer ou pas? C'est une grande discussion dans la Gemara. C'est quand, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Et là, on va dire que c'est l'allumage qui est important. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas allumer à l'abri, si vous voulez, puis ensuite le transporter, parce qu'il faut allumer à l'endroit où ça doit être posé, parce que l'allumage fait partie de la mitzvah.
Mais le nerf tamid fait partie de
la mitzvah. Oui, oui, je vous ai dit que c'est le central.
C'est le centre, oui.
C'est le central. Oui, ça c'est à Hanouka, le lieu là-bas c'est évident, la menorah, on vient de dire dans le texte ici que la menorah elle était juste de l'autre côté du rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim.
La menorah c'est lié aussi au nerf de Shabbat?
Non. Non, pas du tout. La menorah, la lumière de la menorah n'est justement pas fonctionnelle. C'est pour ça qu'il est resté que les nérodes de Hanouka ne sont pas fonctionnelles. Elles ne servent pas à éclairer. Elles servent à publier le miracle. Ici aussi, ça publiait ce miracle. Bon, ça avait d'autres fonctions, mais entre autres, ça publiait ce miracle. Alors c'est intéressant de voir, donc par rapport à la Kehuna, l'importance de la mitzvah d'Adlakat HaNerot qui est cette valeur de témoignage qui n'est c'est dit sur les luchot, sur les tables, on dit qu'elles sont luchot à edut, c'est des tables de témoignage, mais l'acte où les hommes font quelque chose pour témoigner, d'accord, c'est la menorah où Aaron allume pour témoigner en quelque sorte Et c'est probablement que c'est ça la référence. On dit en dehors du parochet, Asher ala edut. Donc il y a cette notion de témoignage. Le parochet, le rideau qui sépare de l'arche, qui est l'arche de témoignage. D'accord, c'est Aaron a edut aussi. Et la menorah est aussi un témoignage par le miracle du nerf maravi qui est donc le nerf central, qui lui ne s'éteignait pas normalement, qui brûlait au-delà de la quantité de combustible qu'on avait mis. On avait mis une quantité pour que ça brûle jusqu'au matin, et ça brûlait beaucoup plus longtemps. Donc, si on veut se demander pourquoi est-ce que ça passe par Moshe Rabbeinu ici, comme si il fallait que ce soit... C'est difficile, il faut qu'on comprenne quelque chose de particulier avec toute cette avoda ici de la menorah, et c'est le même problème qu'avec la Torah en quelque sorte. On ne pouvait pas dire Torah tziva lanu Hashem, d'accord, la Torah elle a dit Torah tziva lanu Moshe, et ici aussi c'est Moshe qui est metsavé ici aussi. C'est Moshe Rabbeinu qui me savait. Donc, si j'essaie de m'appuyer sur ce qu'on a dit de la Torah, du que je vous ai raconté sur Torah Tziva lanu Moshe, alors si je l'applique ici, il faudrait dire que ce qui se joue là, c'est quelque chose qui est tellement important qu'on pourrait se tromper. Si c'est Hachem qui le disait, on aurait une mauvaise image d'Hachem, en quelque sorte, une fausse image de quelque chose. Alors, pour ça, il faut peut-être que je vous dise la chose suivante. Le Kohen, c'est donc, a priori, dans notre image, c'est quoi? Les Kohanim sont les gens qui représentent le clan Israël dans la Avoda. C'est-à-dire, au lieu que chacun d'entre nous fasse la Avoda, fasse le service d'Hachem, alors, il y a des Kohanim qui le font. Et a priori, on pourrait s'imaginer, bon, ben, ils le font pour nous, ils nous représentent. Au lieu que ce soit moi qui apporte mon propre korban, quand j'ai un korban à apporter, ben, c'est un Kohen. Moi, j'apporte seulement la bête à l'entrée du Mishkan, et puis je la donne au Kohen, et le Kohen, il fait le travail. Le Kohen, tu vas faire, je pourrais faire la Shrita aussi, mais non, le Kohen va faire la Shrita, il va recueillir le sang, il va faire les aspersions, puis après, éventuellement, il va ou bien griller toute la viande, ça c'est si c'est une hola, ou bien il va manger, le Kohen, les Kohen ils vont manger la viande, ou bien ils vont la donner, la viande, au propriétaire du korban. C'est les trois situations qui peuvent se proposer. Et ça c'est le Kohen qui fait le travail. Et la Gemara, elle se pose la question suivante. La Gemara se demande, est-ce que les Kohanim sont nos shluchim? Un shaliach, c'est quelqu'un qui me représente. D'accord? Faire un shaliach, c'est faire un représentant, nommer quelqu'un qui sera un fondé de pouvoir, en quelque sorte. Quelqu'un qui aura le pouvoir de faire, en mon nom, certaines choses. Par exemple, si un homme veut donner des kiddushin à une femme, et supposer que quelqu'un veut donner le kiddushin à une femme, mais la femme n'est pas dans le même endroit que lui. Et à supposer qu'elle ne peut éventuellement pas venir, c'était la guerre, ou etc. Donc la femme, elle peut désigner un shaliach pour recevoir les kiddushin, recevoir la bague, en son nom. Donc elle va envoyer quelqu'un, un homme, qui va aller... qui lui va entrer en relation avec le Khatan, et le Khatan va lui donner, et il va lui dire, quand il lui donnera la bague, il dit, Madame Machin, d'accord, Eve Koudeshet, avec cette bague que je te donne à toi, son envoyé, son représentant. Et puis on peut faire mieux encore, c'est-à-dire que supposer que le mari non plus, il ne peut pas... Lui, il est en prison, elle est de l'autre côté du mur. D'accord. Alors, lui aussi, il peut faire un chaliar. Donc, il y a deux personnes qui se rencontrent. D'accord. Et un qui dit, je représente le Khatan machin chouette, et il dit au représentant de la Kala Trucmuche, il dit que, voilà, je te donne cette bague au nom de celui qui m'a envoyé, pour la donner à celle que tu représentes, et qui lui finit sans faire la femme est mariée avec ça. Le reste, donc, ils ne peuvent pas faire ça ils ne peuvent pas l'entrer dans la maison, ça, c'est pas possible. Mais les kiddushin eux-mêmes, ça, on peut faire avec un chaliar. Juste pour vous donner un exemple classique, quoi, facile à comprendre, de ce que c'est qu'un chaliar. Alors, la question, c'est, les kohanim sont-ils les représentants envoyés du clan Israël, du peuple juif, ou bien sont-ils les représentants d'Hachem? C'est un peu, même l'idée est un peu surprenante, comment ils pourraient être les représentants d'Hachem. Mais non seulement cette idée est soulevée, mais la halakha, c'est qu'ils sont les représentants d'Hachem. Alors là, ça nous oblige à, si on va jusqu'au bout de ce que ça veut dire, alors on obtient un drôle de résultat. C'est pas parce que si les kohanim qui font le travail de la avoda, qui approchent le korban de l'animal ou la crêpe, la mincha, on la donne à Hachem en quelque sorte. Mais si eux, ils sont les représentants d'Hachem, alors c'est Hachem qui se donne à lui-même. Ça voudrait dire que toute la avoda est un circuit qu'Hachem se donne à lui-même. Et les choses se présentent seulement comme si les hommes étaient partie prenante, là. Mais en réalité, puisque les Kohanim sont les représentants d'Hachem, et ce sont eux qui font la chose, donc c'est comme si la Avoda, c'était Hachem lui-même qui faisait sa propre Avoda. C'est un peu paradoxal. Non, ça, j'ai jamais dit.
Non. Alors, il y a une histoire comme ça. C'est la façon de jeûner que finalement, il représentait le clan d'Israël.
Ce que j'ai dit, c'est qu'à Kippour, le seul qui faisait vraiment le travail, c'était le Kohen Gadol. Ouais. C'est pas, mais jeûner, tout le monde jeûnait.
Oui.
Et là, à Voda, c'est le Kohen Gadol qui, on le dit à Moussaf de Yom Kippour, quand on fait le récit de ce que faisait le Kohen, on voit très bien qu'il court toute la matinée, un peu, alors, jusqu'à midi, au galop.
Là, il nous représente.
Là, justement, nous avons vraiment l'impression que le Kohen, à ce moment-là, il nous représente. Mais si tu dis qu'il est shliach de la Torah, de l'Hachem, alors ça veut dire... Il est shliach d'Hachem et il fait les choses comme si elles étaient en notre nom, quoi. L'histoire, c'est que on a un comme si, en quelque sorte.
Il a deux casquettes, là.
Oui, c'est ça. Comme si. Mais c'est pas vraiment une casquette. L'autre. D'abord, il a un bonnet. Il n'a pas de casquette. Mais il n'est le shliach que. Seulement, quand il parle, il dit la première fois, il fait le vidouille en son nom, ensuite, dans sa famille, quoi, ensuite au nom des Kohanim, et ensuite au nom de tout le peuple. Trois fois le vidouille, oui. On compte, vous savez ce qu'on compte, le Kohen Gadol, il dit Achat, Achat, Ve'achat, Achat, Ushtaim, etc. C'est trois fois, une fois pour lui, personnellement, il ne peut pas faire le travail si lui, il n'a pas fait vidouille, si lui, il ne s'est pas vidé de toutes ses fautes. Ensuite, tous les kohanim qui sont autour, il faut aussi les nettoyer de toute trace, et à ce moment-là seulement, il peut le faire au nom du peuple. Mais, quand il le fait au nom du peuple, c'est Hachem qui... Ça veut dire que, d'une certaine manière, quand Rabbi Akiva dit « Ashrechem Israël, heureux êtes-vous Israël, ifnemi atem mitaharim » devant qui est-ce que vous purifiez? Vous purifiez devant Hachem, d'accord? Vous purifiez, donc là, toute l'opération de Kippour, elle se fait l'ifné Hachem, et c'est possible que certains veulent dire que Rabbi Akiva, il dit ça parce que au temps de Rabbi Akiva, il y a eu la... on n'a plus le Beth Amikdash, donc les Bnei Israël, c'est sûr qu'ils étaient un peu perdus, puisque avant, quand il y avait le Beth Amikdash et le Kohen Gadol qui faisait tout le travail, alors Rabbi Akiva, il a consolé tout le monde en disant, finalement, c'est seulement l'Ifné Hachem, alors Hachem est partout, donc vous pouvez avoir un kapara partout. Mais c'est seulement comme si, parce que c'est le Kohen lui-même qui est en... C'est comme si Hachem lui-même faisait le travail. Oui, mais là-bas, c'est pas vous l'avez fait seulement. Là, c'est les mitzvot, c'est normal. Là-bas, ce qu'on la dracha, elle est qu'en faisant les mitzvot, vous vous construisez vous-même. C'est-à-dire, je considère comme si vous vous étiez fait vous-même. C'est ça la dracha, oui. Bon, alors, je pense que c'est pour ça que ces deux psukim là, qui parlent de la keuna et de la avoda essentielle du Kohen Gadol, sont ici dits comme des choses qui sont, bien qu'on parle aussi, semble-t-il, de fonctionnement, mais c'est le fonctionnement, il est là seulement pour qu'on comprenne bien comment il faut construire la menorah, où elle doit être et tout. Et puis, c'est dit au nom de... C'est Moshe Rabbeinu qui donne des ordres ici, pour bien montrer que Moshe Rabbeinu est au-dessus du Kohen Gadol, qu'il est roi, et qu'il y aurait un risque, parce que finalement, on n'ose pas dire les choses directement, parce que, comme je vous ai dit, si on dit clairement que les Kohanim sont Shluchei de Rachmanas, c'est-à-dire s'ils sont les envoyés d'Hachem, alors on a cette difficulté, c'est Hachem qui fait tout le travail, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est même pas les Kohanim ne nous représentent pas nous, puisqu'ils sont les représentants d'Hachem. Et donc là, il était nécessaire de bien montrer que ce sont les hommes, c'est Moshe Rabbeinu qui donne ses ordres. C'était encore Hachem qui donnait les ordres, et que, comme quelque part, on a l'impression que tout se fait à l'intérieur par Hachem lui-même, alors là, Hachem a dit, non, mais c'est toi qui vas donner les ordres. Donc c'est les hommes qui vont mettre en place cette situation, et c'est pratiquement les hommes qui vont faire des Kohanim, les Shluchim d'Hachem qu'ils sont. Les hommes, en l'occurrence, c'est Moshe Rabbeinu. Tout a mal tourné, parce que comme on l'a dit au début, si on dit que le Mishkan était prévu de toute éternité, ben, si on lit dans l'ordre, on voit que malgré le Mishkan, il y a le Vaudor. Donc ça a mal tourné, ça n'a pas sauvé, ça va empêcher les Bnei Israël de faire le Vaudor. C'est un peu paradoxal. Et si on dit que le Mishkan, donc ces parchiotes-là, elles viennent après le Vaudor, alors elles sont censées résoudre le problème qu'on ne savait pas résoudre et qui nous a... Et c'est la raison pour laquelle on a fait le Vaudor. Mais on voit très bien que le Mishkan est devenu Beth Amikdash, et ensuite on s'est quand même cassé la figure.
Les Kohanim, eux, ils savent qu'ils sont les représentants d'Hachem.
Je pense qu'ils savent ça comme nous, si vous le savez, moi aussi, ils devraient le savoir aussi.
C'est dangereux, ça.
Oui, c'est dangereux, mais si vous voulez, je peux vous dire. L'autre côté, Si maintenant je vais essayer d'expliquer les choses, je peux dire, si vous voulez, c'est impensable qu'on puisse faire une avoda pour Hachem. C'est quoi? C'est comme si on donnait quelque chose à Hachem, qu'est-ce qu'on peut lui dire? De toute manière, il y a une espèce de fiction. Puisque quand Hachem dit, tu m'apporteras un korban, etc., ok, j'apporte un korban, mais c'est bien parce qu'Hachem a fait en sorte que j'avais ou de quoi m'en acheter un, ou bien que j'avais dans ma bergerie l'agneau parfait que je peux apporter comme korban. Donc, finalement, ce qu'on lui apporte à Hachem, c'est ce qu'il nous a donné. Donc, de toute façon, il y a une espèce de comme-si dans cette affaire-là. D'accord ? Il y a toujours cette idée que on est presque toujours dans la situation de l'enfant qui va acheter un cadeau d'anniversaire à sa mère. Il va avec sa mère dans le magasin et sa mère achète et lui dit, tu vois, ça ferait plaisir à maman. Et l'enfant dit, oui, alors on va l'acheter et puis tu vas le donner à maman.
Mais alors, c'est pas ce qu'on fait tous les jours quand on fait des mitzvot. C'est Hachem qui nous permet de les faire, qui nous donne pour les faire.
Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de vous dire?
Oui, mais alors, c'est pas que les Kohanim, c'est nous aussi.
Mais oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on lit.
Non, mais moi, je pense que les Kohanim, c'est quand même très. Enfin, nous, on ne parle pas pour Hachem, mais les Kohanim, Dieu, les cadres qui sont les représentants d'Hachem, c'est.
Deux, je m'excuse.
De dérapage.
Les autres dérapés.
Oui, d'accord, mais. Donc, je veux dire. Il y a quand même. Non?
Oui.
Alors, je représente, de toute façon, justement, il sait qu'il n'est pas. Parce qu'il représente.
Mais il a tel pouvoir que c'est le monde de la
tête. Oui, mais non, quand quelqu'un est fondé de pouvoir, je ne sais pas, dans une entreprise, il a la signature, etc. Bon, et puis il peut s'imaginer qu'il a le pouvoir, mais en vérité, il sait très bien qui le lui a donné, je veux dire, ce pouvoir. Normalement, il le sait.
Oui, mais on a vu ce que c'est.
Bon, mais malheureusement, c'est ce que je vous disais, c'est que de toute façon, quoi qu'on en dise, ce problème-là de faire quelque chose de matériel, quand même, que cela ait été prévu de toute éternité, ou que ce soit une réponse au Vaudor, ça ne marche pas, quoi. Et donc là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire que... Alors, mon idée, ça, c'est ce que je pense, moi, je n'ai pas obligé d'être d'accord, je pense que c'est impensable de dire qu'Hachem avait prévu quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc, il faut imaginer que ça pouvait marcher. Mais comment est-ce que ça peut marcher? Je crois que ça ne peut marcher qu'avec Moshe Rabbeinu.
Et Aaron.
Non? Enfin, il faut Aaron peut-être, mais en tout cas, c'est pas à cause de... C'est Moshe, parce que c'est la... Le Vaudor, il arrive quand Moshe Rabbeinu n'est pas là. D'accord? Et donc, et là, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu n'est pas là, il y a donc quelque chose dans le Mishkan qui va faire que ça ne va pas marcher. À long terme. Mais, alors, on a pas gagné grand-chose, parce que il faut maintenant expliquer, c'est qui ce bonhomme Moshe? D'accord? C'est aussi difficile d'imaginer que les choses dépendent de Moshe.
Alors, qu'est-ce
qui se passe? C'est que, alors quand Moshe est là, c'est réglé, c'est bon. Mais le problème, c'est, Moshe Rabbeinu, visiblement, il n'était pas éternel. D'accord? Et donc, on peut pas. Il y a quelque chose qui doit pouvoir remplacer Moshe Rabbeinu. D'accord. Et ce qui remplace Moshe Rabbeinu, en fait, c'est la Torah orale. C'est seulement la Torah orale qui donne justement cette chose exceptionnelle, si vous voulez, qui est que on considère que le produit de l'esprit humain, avec un peu d'inspiration, etc., et les règles de fonctionnement du Sanhedrin, par exemple, d'accord, ça produit de la Torah. Ce sont des hommes qui produisent la Torah. D'accord, c'est en ça que ça remplace à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le bon remplaçant. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était bien celui qui, pour le clan d'Israël, produisait la Torah. Torah Tzibala no Moshe. N'est-ce pas? C'est... Et du coup, on comprend très bien que il va y avoir un problème, c'est que il n'y a pas le développement de la Torah chez Balpé, de la Torah orale, immédiatement à la mort de Moshe. Parce que l'explosion de la Torah orale, c'est à la fin au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Un instant. Donc, on a cette situation où il y a un trou là. Entre la mort de Moshe Rabbeinu, il y a Yoshua, les juges, les rois, le premier Beth Amikdash, qui ne marche pas. Parce que finalement, le premier Beth Amikdash, il est détruit. Et nous, on n'a presque pas de Torah orale qui vienne de ce moment-là. Nous, la Torah orale que nous, on connaît, c'est celle qui commence, comme on dit dans Pirkei Avot, d'accord, on les connaît, mais les rabbanim qui sont marqués dans Pirkei Avot, les Tanaïm de Pirkei Avot, c'est des gens qui sont essentiellement après le deuxième Beth Amikdash. Alors c'est vrai que c'est marqué « Moshe Kibel Torah Misinaï » Il a reçu la Torah orale, on parle de Torah orale, mais Sarah le Yoshua, il l'a transmise à Yoshua, Yoshua le Skenim, etc. Et puis après, on va jusqu'au Zugot, jusqu'au père Yere, S, oui, de Tanaïm, qui s'oppose. Donc après, il faut expliquer pourquoi ils peuvent s'opposer, puisque normalement, pourquoi il n'y avait pas d'opposition, tout à coup maintenant il y a une opposition. Alors, une explication, c'est que les gens n'ont pas suffisamment travaillé. On dit que l'oshimshu kol torkam, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment étudié auprès de leur maître. Et donc, il y a eu des divergences. Lui, il a dit, mais le maître, il a dit comme ça. L'autre, non, le maître, il a dit comme ça. Ils sont tous les deux, ils ont tous les deux raisons, mais peut-être que, un, il a entendu le début du raisonnement, et l'autre, peut-être le maître, il a changé d'avis, ou il a, dans son exposé, etc. Et voilà. Mais là, on a donc ce trou-là. Il y a bien une transmission, mais on n'entend pas que ça ait produit grand-chose. On sait, Shlomo HaMelech, Netilat Yadayim, c'est des petites choses, mais rien du tout par rapport à l'explosion qu'il va y avoir au moment des Tanaïm. Alors, c'est ça je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas s'il était tellement fondamental qu'on ait Moshe Rabbeinu, que quasiment c'est qu'avec Moshe Rabbeinu que ça ne devient pas d'idolâtrie. Alors on est tombé en plein de l'idolâtrie, je veux dire, encore, ça n'a pas duré longtemps. Mon cher Abou Nalori, il aura tout de suite dit, je sais bien que quand je ne serai plus là, vous allez tomber dans l'idolâtrie. Mais Yoshua, il n'est pas capable de le faire, et après, on nous enseigne pas, il y a les prophètes, mais les prophètes, c'est pas la Torah chez Birta, c'est chez Balpé, parce que les prophètes, ils n'ont pas le droit de... c'est pas des créateurs, les prophètes. Il n'y a pas de créativité, si vous voulez, au niveau des prophètes.
Le prophète, il répète.
Le prophète, il répète, ou il retransmet éventuellement, il fait un travail de mise en forme, de mise en scène peut-être aussi. Des fois, il mettait en scène.
Mais là, puisqu'il fallait que Moshe soit sur place, soit toujours présent dans l'Israël, pourquoi Hachem l'a appelé, il a donc fait isolé, et a donc mis le clan d'Israël dans cet état de risque. C'est très visible, puisque vous dites que seul Moshe pouvait empêcher. Moshe partant, on est en danger.
Oui, mais je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas pourquoi. Premièrement, si vous dites comme le Rambam, alors c'est le contraire. Le Rambam dit on a dû faire ça parce que les Bnei Israël n'étaient pas capables de vivre sans ça. Ils ont fait le veau d'or et qu'on a réparé de cette manière-là. Alors bon, la rustine qu'on a mis, elle n'est pas bonne, quoi. C'est un peu compliqué de dire que Akadosh Baruch Hu, il leur a...
C'est parce qu'on
Alors, est-ce que, peut-être que ce qui aurait dû... Pourquoi ça a raté à ce moment-là? Ça n'a pas raté. Bon, il y a eu des moments où c'était pas très haut, mais ça n'a pas raté complètement au moment du Mishkan, au moment même de Shiloh, etc. Ça a raté quand on a fabriqué le Beth Amikdash. Or, quand David HaMelech a eu cette idée de construire le Beth Amikdash, Hachem lui a dit, c'est pas nécessaire, je suis très bien dans ma tente, en quelque sorte. Mais, tu veux construire? Il a laissé construire. Mais c'est à se demander si c'était pas une erreur, quoi. Parce que quand on a construit en dur, on a perdu la souplesse, si vous voulez, la plasticité du Mishkan. Même si le Mishkan de Shiloh était un endroit fixe, etc., mais c'était encore une tente. Donc il y avait cette idée de, je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de que ça soit souple? On a besoin de que même dans la... pas quelque chose en dur. Le dur, le problème du dur, c'est que c'est pas souple. C'est ça le problème. Même dans les tremblements de terre, on construit, si possible, avec des moyens qui gardent une certaine souplesse. En bambou, c'est paraît-il plus souple qu'en pierre ou en brique. Alors aujourd'hui, on a peut-être des techniques, là. Je parle sous ton contrôle. Pardon ?
Des vérins.
Oh, des vérins, oui, d'accord. De construire sur des vérins, alors, bon. Donc il faut... On voit bien qu'il y a quelque chose dans le dur qui fait que c'est le roseau, il plie, et puis après il y a le chêne, il est beaucoup plus... Mais il casse. C'est-à-dire, c'est toujours la même idée, quoi. Donc quelque part, il y a quelque chose de négatif dans l'idée de construire. Bon, moi, en plus, je vous dirais franchement, il y a la construction, mais le projet de David qui était de construire, peut-être il pouvait marcher seulement si c'était David qui lui avait cette... Et quand c'est construit par Shlomo HaMelech, alors non seulement le Beth Amikdash ne va pas tenir, mais la royauté non plus ne tient pas. D'accord ? La génération après Shlomo HaMelech, c'est la génération du schisme. D'accord ? Son fils, on lui enlève 10 des 12 tribus du clan d'Israël. Donc la royauté, quand elle s'installe avec la puissance, la beauté, le rayonnement de Shlomo HaMelech, formidable, et plouf. Mais ça passe même pas à la génération d'après. C'est énorme, quoi. De nouveau, l'histoire, c'est de nouveau quelque chose comme une construction en dur, quoi. Et Shlomo HaMelech... quelle que soit la façon dont on présente les choses, il est quand même accusé dans le texte d'être idolâtre. D'accord ? Bien qu'en fait, son idolâtrie, c'était l'idolâtrie des femmes qu'il a épousées. Il a épousé plein de femmes qui venaient de milieux idolâtres, qui certainement ont fait une conversion consistoriale ou autre, je ne sais pas, quelque chose, une vraie conversion, quoi. Et puis ensuite, ça n'a pas tenu, quoi. Ça n'a pas tenu, et puis comme Shlomo HaMelech, il pensait que c'était les enfantillages des bêtises, il ne s'en est pas occupé, mais du coup il est responsable, et à cause de cette responsabilité, il a écrit noir sur blanc qu'il est idolâtre, au point que, je vous ai déjà raconté beaucoup de fois, que les Chachamim, en fait, ils voulaient dire que Shlomo HaMelech, il n'a pas de part au monde à venir. D'accord ? Quand il y a eu la discussion, est-ce que Shlomo HaMelech, il a chélek le Olam Haba ou pas, les Chachamim, ils ont dit non. Et Shlomo HaMelech, il a été sauvé parce qu'Hachem a fait un coup de force. Hachem, il a apporté des arguments. Les Chachamim, ils n'ont pas accepté.
Donc, son rêve, il était...
Un instant. Donc, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a dit, je dis que Shlomo HaMelech, à part au monde à venir, fin de la session. C'est un coup de force, quoi. Il a appliqué le 49.3,
oui. Oui, mais ça enlève tout. On ne doit plus, à partir de cette phrase-là, on ne doit plus penser qu'il a pu être idolâtre. Si Hachem a dit que maintenant on arrête le débat, c'est la rentrée.
Voilà, d'accord. Ok, d'accord.
Non, moi je veux bien.
Non, vous ne voulez pas. Je vois que vous ne voulez pas. D'accord.
Ça se contredit.
Si vous
Parce que, mon cher Abbé, nous, je voulais vous vous souvenir, mais je crois que j'ai déjà raconté ça. Le Vav de Mishpatim, vous vous souvenez, on avait dit, le Vav de Mishpatim, il nous disait que les Mishpatim, ils avaient le même statut que ce qui était juste marqué avant, puisque le Vav, c'est la Vav de liaison, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué juste avant? Chose qui concerne le Mizbéah. Et donc on dit, ben, de même que tout ce qui concerne le Mizbéah vient du Sinaï, ce sont des lois du Sinaï, les Mishpatim aussi sont des lois du Sinaï. Et donc on avait expliqué que du Sinaï, on a eu à la fois les lois de la relation verticale et aussi les lois de la relation horizontale entre les hommes, et qu'il faut qu'il y ait les deux. Sinon, alors, et comment ça se traduisait? Vous vous souvenez, on avait dit que c'est parce que on a traduit ça en disant que dans l'enceinte même du Beth Amikdash, il y avait une chambre particulière qui était le siège du Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est lui qui fabrique les lois. C'est la Torah orale, quoi. Et donc, il fallait que ça soit dedans. Pour bien montrer que on n'a pas, d'un côté, la relation avec Hachem et dans la maison attenante, non, dans le même endroit. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est si c'est tellement fondamental d'avoir les deux, et que quand on n'a pas les deux, alors le Beth Amikdash devient un temple, c'est pour ça que je suis toujours réticent à utiliser le mot temple pour traduire Beth Amikdash, parce que temple, pour moi, c'est une connotation idolâtre, parce que dans les temples, il n'y a que la relation verticale, il ne s'occupe pas. S'il y a des relations orientales, c'est quoi, les prostituées sacrées ou des choses comme ça, c'est pas du tout ça. Et alors la question qui se pose, c'est, et dans le Mishkan, il n'y a pas? Où est-elle le côté horizontal dans le Mishkan? Le côté horizontal, c'est quoi? C'est les Mishpatim, justement. Mais les Mishpatim, c'est Hachem qui les donne au fur et à mesure. Il les redonne à Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu va dans le Mishkan pour discuter avec Hachem. Hachem lui parle dans le Mishkan, Hachem lui parle, on dit que la voix elle semblait sortir entre les deux chérubins, entre les deux krouvim qui sont sur le couvercle du Aaron, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu recevait, peut-être la deuxième mouture, mais il recevait les lois justement qui allaient gouverner les relations internes entre les Bnei Israël. Donc, c'était le Mishkan faisait les deux choses, mais comme le Mishkan c'est pas quelque chose avec beaucoup de chambres etc. Alors c'était dans le même endroit, l'endroit où on faisait la avoda, c'est aussi l'endroit où peut-être même plus, parce que si on dit que c'était ça sortait du Kodesh HaKodashim, quasiment entre là-bas, donc c'est dans l'endroit où il n'y a pas d'avoda à cet endroit-là. L'avoda, elle se fait dans le Kodesh. Kodesh HaKodashim, il y a seulement le Aaron, essentiellement, c'est ce qu'il y a. Et donc là, il y avait Moshe qui parle avec Hachem, c'est ça la Torah orale à ce moment-là. La Torah orale, c'est Moshe qui la reçoit et qui va la répercuter. C'est lui qui travaille à ce moment-là. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, il n'y a pas encore de vraies discussions. Bon, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah orale en même temps que la Torah écrite. Seulement, il l'a reçue compacte, comme on a expliqué, pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu ne comprend rien quand il est à l'école de Rabbi Akiva. Il fait avec Hachem lui parle. Il a des relations verticales. La relation verticale, c'est le Kohen Gadol qui l'a fait. Moshe Rabbeinu lui. Il est Rabbeinu, il n'est pas Kohaneinu, il n'est pas le Kohen, il n'est pas le prêtre. Donc, il est le maître.
C'est le point de jointure.
Pardon?
Moshe Rabbeinu, c'est le point de jointure entre les Bnei Israël et Hachem, du fait qu'il leur donne.
Il est le. Oui, il est. C'est ça.
Et du coup, la seule part qu'on a, avant qu'il y ait la Torah chez Dalbé, c'est la désignation de Moshe Rabbeinu.
Dans le Torah, ce qui est le Torah chez Baal Pé, c'est ce que faisait Moshe Rabbeinu. Et la question que j'ai, si vous voulez, c'est, il y a un trou là. Il y a un trou jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord ? Où on n'a pas vraiment un développement, en tout cas on n'a pas trace d'un développement de la Torah chez Birkav, chez Balpé, pardon. Il y a un seul endroit où on pourrait penser, mais personne ne dit que c'est ça, c'est la fameuse, il y a un fameux enseignement qui dit que il y avait ce qu'on appelle Hasidim Arishonim, mais on ne sait pas qui c'est. Parce que ce sont les Tanaïm qui parlent des gens pieux qui existaient avant. Mais on ne sait pas à qui ils font allusion, parce qu'on dit que ces gens-là, c'était des gens qui, quand ils priaient, ils avaient besoin d'une heure pour être en position de pouvoir prier. Ils priaient pendant une heure, et puis ils s'élevaient tellement dans leur prière qu'ils avaient besoin d'une heure pour redescendre sur terre. Donc ils avaient trois heures pour la prière. Alors la Gemara demande, elle dit, il y a trois prières quotidiennes, 3 × 3, ça fait 9. Ils consacrent 9 heures à la prière. Alors ils demandent, mais quand est-ce qu'ils étudiaient? Et quand est-ce qu'ils travaillaient? Et là la Gemara répond, comme c'était des gens exceptionnels, leur étude et leur travail se faisaient beaucoup plus vite. Alors, ces gens-là, ils sont appelés Hasidim Arishonim, mais à ma connaissance, on ne nous dit jamais qui ils sont. C'est des gens, ils étaient là avant. Qui y avait avant, on ne sait pas. On ne dit pas, c'est pas marqué, c'était les Nevim, c'est pas les prophètes. Sinon, ils ont un nom, ils s'appellent prophètes. On appelle Hasidim Arishonim. Les gens pieux, les premiers gens pieux, je ne sais pas. Oui, alors, on pourrait imaginer, ceux-là, puisqu'ils sont avant les Tanaïm, ils sont clairement avant, donc ils sont dans ce trou-là, cet espace où on ne connaît pas la Torah orale qui aurait été produite à ce moment-là, entre l'entrée en Eretz Israël, si vous voulez, et la destruction du Beth Amikdash. Mais ça, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. Mais je pense que ce qui représente aujourd'hui la solution, pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash en tout cas, c'est la Torah orale. Or, la Torah orale, il n'y a aucun moyen que ça marche. Et du coup, le gros avantage, c'est que la Torah orale, elle a l'énorme avantage qu'elle est accessible à tout le monde. Comme dit la Gemara, il y a trois couronnes dans le monde, une couronne de la royauté, une couronne de la Kehuna et une couronne de la Torah. Les couronnes de la royauté et de la Kehuna, il faut être ou bien de la tribu royale ou bien être un Kohen. Mais la Torah, comme dit la Gemara, elle est dans un coin et celui qui veut, il peut aller se servir. C'est accessible à tout le monde. Donc ça veut dire... ce qui peut permettre que ça marche, c'est que tout le monde peut y aller.
Et
la tfila ? La tfila, elle est devenue accessible à tout le monde à partir du moment où, de toute manière, si on ne le fait pas nous, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Je ne sais pas, ça, c'est une discussion pour savoir, je crois, combien on priait au temps du Beth Amikdash. Quand on regarde le récit de ce qui se passait à Kippour, on ne voit pas que les gens priaient pendant que le Kohen Gadol faisait la Avoda. Mais a priori, on peut imaginer qu'en tout cas certains d'entre eux faisaient 3 prières quotidiennes. Mais en tout cas, on n'a pas de récit si vous regardez dans le récit, jamais on fait mention du fait que si c'était tellement important, on aurait dû dire d'un côté il y avait les gens qui priaient, de l'autre côté il y avait le Kohen Gadol qui faisait le travail, mais on a l'impression qu'ils attendent la sortie du Kohen Gadol.
Et